envisager ce qui se passe quand nous avons une image déjà. Quand nous avons une image, il est bien clair que cette image aurait du mal à exister si nous n'avions pas eu au préalable quelque forme de perception. Bien sûr, on pourrait quand même contester la chose en disant que, par exemple, les oiseaux construisent le nid, dans certains cas, sans avoir appris à le faire. Ils ont donc une sorte d'image qui est préalable à la perception de leur environnement. Je pense qu'on pourrait appliquer la même idée au fœtus, en disant que probablement le fœtus a des représentations, même si ces représentations n'ont pas grand-chose à voir avec les nôtres, par exemple. Ne serait-ce que parce que, déjà, le fœtus va naître avec des yeux qui sont prêts à fonctionner, à peu près, grossièrement, les oreilles, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut très bien concevoir l'idée selon laquelle le fœtus aurait des rêves visuels, alors qu'il n'a jamais rien vu. On pourrait à ce moment-là dire que la représentation précède la présentation. C'est-à-dire que l'image précéderait dans ce cas, si on admet cette hypothèse, précéderait la perception. Mais enfin, c'est déjà une hypothèse, et certainement pas une hypothèse reçue par tout le monde. Donc, on va dire que généralement, on admet que la représentation suppose d'abord une perception. Maintenant, je reste sceptique quand même sur une façon, la façon simple que je viens d'énoncer. Parce qu'en fait, nous avons maintenant la certitude que toute perception est une action. Dans une première approche, on a l'impression que l'œil est un genre de caméra, que l'oreille est un genre de micro, et que les doigts sont des sortes de capteurs électriques, et à partir de là, que nous n'aurions aucune activité très particulière dans la perception, sinon de diriger notre tête pour que nos yeux voient une chose plutôt qu'une autre, ou de diriger notre oreille pour entendre mieux un son peu important qui vient d'un endroit pareil, précis d'espace. Mais je pense qu'en fait, notre perception est extrêmement active, et que l'œil ne se contente pas d'être un organe d'enregistrement, si vous voulez, ce n'est pas une simple webcam. L'œil est capable de, par exemple, de focaliser sur un point particulier au niveau de la distance. Donc déjà, si je fixe la prise rouge qui est au fond de la pièce, c'est clair que je vois la prise rouge et le reste devient une sorte de halo perceptif, d'environnement, de contexte, qui perd de sa précision, qui perd de son relief, tout à fait important pour que la prise prenne son sens, mais qui est dans un certain sens un peu négligé par mon activité. C'est donc la perception est une véritable activité. C'est-à-dire que je dois viser cette prise si je veux la dégager de son environnement. C'est-à-dire que, au fond, quand je dis ça, je dis en même temps que la perception est une abstraction. Contrairement à l'idée immédiate qui pourrait nous venir que la perception c'est un enregistrement global d'une situation, alors ça voudrait dire qu'on prend tout, et que l'abstraction n'arriverait que dans un second temps, par exemple, lorsque nous parlons, lorsque nous forgeons des concepts. Et donc, la perception, à mon avis, est déjà une abstraction. Donc, si c'est une abstraction, si c'est un processus actif, ça veut dire que lorsque nous en aurons ensuite une représentation, ça va être une sorte d'abstraction au deuxième degré, et d'activité encore plus complexe. C'est-à-dire que si maintenant je regarde ailleurs et je me représente la prise que je viens de voir, on va dire que c'est une simple mémoire, j'extrais de quelques zones ici ou là dans mon cerveau une carte qui me représente la prise, et je la vois telle que je la voyais tout à l'heure, peut-être un peu moins, la couleur un peu moins vive ou la forme un peu moins précise, mais enfin, c'est la même prise que je vois. Mais non, certainement, le simple fait d'avoir détourné mon regard de la prise et de regarder maintenant la poignée de la porte donne à la prise un tout autre sens. Et j'ai perdu un certain nombre d'informations. En fait, j'ai de nouveau abstrait quelque chose. Alors, je pense que c'est pas une perte du tout. C'est une perte, bien sûr, mais c'est une perte qui est un enrichissement, en fait, de certains points de vue, du point de vue de l'action. C'est-à-dire que le fait que ma perception soit une abstraction me permet de collecter dans mon environnement, ou plutôt de repérer dans mon environnement ce qui va être utile à mon action. C'est-à-dire que si par exemple il faut que le rétroprojecteur s'allume, je vise si la prise est bien branchée, j'espère qu'il y a du courant dedans et on pourra projeter l'image du rétroprojecteur sur l'écran. C'est comme toute chance. Donc c'est une abstraction qui est ordonnée à l'action et qui a une fonction de survie si on parle par exemple d'un point de vue évolutionniste de l'image. Permet aussi à l'animal d'avoir une représentation de ce, par exemple, de son territoire, de ses congénères, de ses proies, de ses prédateurs, etc. C'est-à-dire tout un ensemble d'abstractions par rapport à son environnement qui va permettre à chacun de ces animaux de survivre, en fait. Le langage, dans ce sens, n'est qu'une abstraction supplémentaire. C'est-à-dire que nous sommes arrivés, nous les êtres humains, peut-être d'autres espèces avec un peu moins de richesse que nous, nous sommes arrivés à abstraire de cette abstraction des choses encore plus abstraites et même des représentations d'abstraction. Par exemple, les mots. On parle d'écriture, de représentation, de représentation. Alors, l'espace intérieur et l'espace extérieur, évidemment, vous ayez raconté de ça, je me trouve dans la difficulté de distinguer les deux. Je me dis, mais où j'en suis avec l'espace intérieur et extérieur, puisque dans le fond, si ma perception est active, je retiens de l'environnement que ce qui m'intéresse, alors finalement, c'est plus mon environnement, c'est plus ce qui est dehors, c'est ce qui, à moi, importe, que je tire de cet environnement. Et donc, cet espace qui m'est extérieur, il m'est en même temps tout à fait intérieur, puisque c'est pas du tout un paradoxe que je dis, c'est-à-dire que l'espace que je vois n'est pas celui que vous voyez. Déjà, je l'ai facile parce que moi je regarde là-bas, vous regardez ici. De manière plus générale, mon contexte historique, préhistorique au sein de ma biographie, de ce que j'ai vécu dans ma vie, de ce qui me préoccupe, etc., mais ça ne va pas le même contexte que celui de Marc, celui de ceux qui sont ici. Et donc, comme chacun de nous extrait de son environnement ce qui a de l'importance, de l'intérêt, d'une certaine façon d'intérêt pour son action, eh bien, ça veut dire que nous sommes ici dans un monde très complexe, puisqu'il est différent pour chacun d'entre nous. Et on peut dire que cet espace extérieur, il est en réalité une sorte de dénominateur qui n'est pas commun en fait, mais qui permet quand même un certain échange, c'est-à-dire que si on parle de la pièce, on est à peu près d'accord sur quelque chose. Nos espaces intérieurs peuvent avoir un certain nombre de convergences, heureusement, et c'est ce qui nous permet d'avoir des imaginations un peu cohérentes entre nous et de parler. Donc, j'en conclue. L'objectif et le subjectif, bien sûr, n'ont qu'un statut sujet à polémique, hein, puisque dans ce moment où l'objectif est quand même subjectif, ça peut nous mener assez loin si nous commençons à décider qu'est-ce qui est véritablement objectif, qu'est-ce qui est véritablement vérifiable.